L'amplification fonctionne, vous m'entendez bien au fond? Ça va? Donc bonsoir à tous pour, et bienvenue pour cette troisième conférence du cycle consacré donc, au protestantisme à l'épreuve du pouvoir. Je suis heureux ce soir, nous sommes heureux, au nom de toute l'équipe de la librairie Jean Calvin, et je suis ému de recevoir mon ancien professeur de l'Université de Nantes, Rémi Fabre, qui a été ensuite professeur à l'université de Paris 12, Créteil, et qui est un spécialiste des mouvements de jeunesse protestants, notamment, spécialiste aussi du socialisme français, de Jaurès en particulier, spécialiste du pacifisme, il prépare actuellement une synthèse sur l'histoire du pacifisme, et il a publié donc une belle biographie aussi consacrée à Francis de Pressensé, qui est une des grandes figures, j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière en présentant l'autre conférence, une des grandes figures du XIXe siècle français, du protestantisme français aussi, même s'il s'en est détaché du point de vue de la foi. Il n'empêche qu'il a été marqué par ses origines, notamment par son père, Edmond de Pressensé, et il a ensuite suivi donc une trajectoire personnelle au travers notamment du développement de la Ligue des droits de l'homme. Et Rémi Fabre donc va nous expliquer tout cela ce soir en à peu près 45-50 minutes. Et puis après, comme à notre habitude, on pourra échanger et poser des questions à Rémi Fabre pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Voilà, donc je vous laisse tout de suite la parole.
Alors, merci beaucoup. Moi, je suis très heureux de venir ici à l'Est, donc en pays protestant, et à l'invitation d'un ancien étudiant, ce qui est également toujours une satisfaction pour un professeur. Et donc, oui, je vous parle de Francis de Pressensé. Donc, là, j'ai mis un titre un petit peu différent, Une grande conscience de la République, mais donc le titre de la biographie, c'est Francis de Pressensé et la défense des droits de l'homme. Donc, oui, on peut s'intéresser à la question du pouvoir intellectuel sous la Troisième République, même si c'est un homme de pouvoir au sein de la Ligue des droits de l'homme, mais ce n'est pas un homme qui aurait exercé des responsabilités ministérielles. Comme Jaurès, dont il est très proche, il est resté donc en dehors, même si, à un certain temps, au moment du bloc des gauches, il a eu une influence politique réelle. Donc je vais essayer de vous présenter son histoire, son itinéraire, un parcours biographique finalement de manière assez classique, donc en insistant évidemment sur toute la période où il a été très connu, où il a joué un rôle politique, évidemment il n'est plus très connu aujourd'hui bien sûr, mais sous la Troisième République entre l'affaire Dreyfus et 1914, c'est une des figures marquantes, on peut dire, du paysage politique français, incontestablement. Alors je vais le suivre, donc... Avec un plan, je commencerai par présenter l'héritier d'une grande famille et de grandes personnalités protestantes, donc quelques mots sur ses parents, ça en vaut la peine pour le comprendre. Ensuite, du libéralisme au dreyfusisme, donc c'est la première période de sa vie, de sa carrière, parce qu'il n'est pas tout de suite engagé dans le socialisme et la Ligue des droits de l'homme, qui d'ailleurs ne naît qu'au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, le troisième moment, c'est l'engagement pour les droits de l'homme et la République laïque, avec en particulier un rôle incontestable au moment de la séparation des Églises et de l'État, sur lequel je reviendrai, bien sûr. Et puis, le dernier élément, si je peux le montrer, oui, pour les peuples opprimés, la paix européenne, donc la dimension internationale de ses activités, et en particulier, comme Jaurès, un de ces hommes qui ont eu conscience de la tragédie qui pouvait se préparer avec la Grande Guerre européenne, qu'on n'appelle pas encore la Première Guerre mondiale, mais on sait bien que ça pourrait être donc un épisode dramatique, et Pressensé est un de ceux qui ont essayé de prévenir, d'empêcher. Mais il est mort en janvier 14, donc juste avant le déclenchement du conflit qu'il n'a pas vu.
Je pense qu'on peut essayer de le mettre en plein écran. Tu veux qu'on essaie de le mettre
Oui, on va essayer de le mettre en... Oui, oui. Non. C'est-à-dire c'est plus commode pour moi, peut-être
D'avoir
de...
ici les images.
Oui, mais par contre, elles apparaissent, c'est peut-être pas très bien. On le met en plein écran, et puis je... Alors, attention, c'est là, peut-être, non C'est comme ça.
Deux fois dessus, non, je ne sais pas si c'est possible.
D'accord.
Non.
Je vais essayer de faire...
Bon, je suis très doué en technique, moi. Ça. Comment on fait pour le plein écran ? Non, c'est pas ça.
Là-haut. Diaporama, oui. Il faut mettre diaporama.
Oui, non. Diaporama.
Diapositive. Diaporama, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, je suis comme ça, d'accord, oui. Très bien.
Bon, excusez-nous. Hein. Donc, merci. Merci à la salle, merci au public. Donc, l'héritier d'une grande famille et de grandes personnalités protestantes, je n'ai pas de photographie de l'enfant ou du jeune présenté. En fait, on a assez peu d'images dans la mesure où les papiers familiaux ont disparu. Malheureusement, ils étaient perdus. Hein. Et donc, on peut le remettre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'images. Vous verrez quelques caricatures quand même, hein, puisque c'est la caractéristique de l'homme politique. Alors, donc, il est né en 1853. Il est issu d'une très grande famille protestante, très importante au XIXe siècle. Donc, il est le second fils, il y a quatre enfants en tout, deux garçons, deux filles. Il est le second fils d'Edmond et d'Élise de Pressensé. Donc, deux personnalités marquantes hein, du protestantisme français du XIXe siècle. Edmond de Pressensé était né en 1824, Élise en 1826. C'est des gens qui ont eu 20 ans un peu avant la révolution de 1848, hein, qui sont marqués par cette période. Et qui sont marqués en même temps par un héritage qui est celui du réveil protestant. Hein, donc, le réveil protestant, c'est plutôt les années, ça commence un peu après 1820, et surtout les années 1830-40. Hein, donc, voilà. Donc, Edmond Pressensé, donc le père, pasteur, donc d'une paroisse réformée et libre, donc encore la terre qu'on appelle la chapelle Thébou, donc qui se trouvait à Paris, dans le 9e arrondissement, un quartier qu'on a assez bourgeois, c'est la chaussée d'Antin. Hein, donc, c'était le quartier un peu de la banque et de la haute société protestante sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe. Et c'était un lieu du réveil parisien qui avait été fondé en 1830, qui avait été fréquenté d'ailleurs par des personnalités marquantes, y compris un peu François Guizot, qui est le ministre protestant de Louis-Philippe le plus connu, hein, celui-là même qui a été renversé par la révolution de 1848. Mais il y avait d'autres figures importantes. Et donc, ce lieu de prière et de culte, qui est devenu une paroisse protestante, mais libre, c'est-à-dire non rattachée à l'État, non concordataire, comme on dit de manière pas très juste, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de concordat avec les protestants. Et vous savez que le système des cultes reconnus, depuis Napoléon jusqu'en 1905, donnait à l'Église protestante réformée une place hein, dans les cultes reconnus. Mais il y avait un certain nombre de paroisses et de prédicateurs protestants qui se situaient en dehors de l'État. C'était le cas des membres présencés, avec d'ailleurs toute une revendication qui remontait donc à Vinède, qui était le grand philosophe et théologien suisse, qui était un partisan de l'absence de lien entre les Églises et l'État. Edmond Pressensé est pasteur de la chapelle Thébou de 1847 jusqu'à sa mort, mais c'est aussi, on peut dire, un intellectuel, une figure reconnue dans la vie intellectuelle française et ensuite dans la vie politique. Il a fondé une revue qui s'appelle la Revue chrétienne en 1860, qu'on a parfois comparé à la Réforme. Donc, c'est-à-dire que c'était le but, c'était de donner le point de vue des protestants sur les grands sujets de l'heure, intellectuels, politiques. Il a écrit pas mal d'ouvrages, il a écrit en particulier un Jésus-Christ, sa vie, son œuvre, son temps, qui est une réponse à la vie de Jésus d'Ernest Renan, qui est un ouvrage très célèbre au XIXe siècle, hein, et qui a été reçu surtout le livre d'Ernest Renan comme l'ouvrage de référence pour les libres penseurs, hein, pour les milieux anticléricaux, scientistes, même si la position de Renan peut l'influencer, mais globalement il a été perçu comme tel. Et donc la réponse des mondes présencés est la réponse d'un protestant, mais d'un protestant qui, du point de vue de la foi, est très fidèle aux bases, on peut dire, dogmatiques de la réforme. Et donc ce pasteur écrivain, il était aussi un homme politique. Il est opposant à Napoléon III, il fréquente les milieux libéraux, en particulier Adolphe Thiers, dans les années 1860. Et donc après la guerre de 70, après la chute de l'Empire, après ce temps, il va avoir une carrière politique dans la fin de sa vie. Il est élu à l'Assemblée nationale en 1871, et ensuite il va se prononcer pour la République. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle le centre-gauche, c'est-à-dire qui étaient les amis d'Adolphe Thiers, qui qui au départ était relativement conservateur, en particulier par rapport à la Commune de Paris qui venait d'avoir lieu, mais qui s'oppose aux monarchistes, à ceux qui veulent rétablir la monarchie, puisqu'il y avait eu une tentative dans ce sens, et non conscientisés, et ceux qui prennent des positions pour cette république qui va naître difficilement entre 1871 et 1877-78. Donc il dépose même, en tant que pasteur, c'était un peu son idée, l'amnistie, donc amnistie partielle pour les communards en décembre 71, vote contre la présence des évêques au Conseil de l'instruction publique, donc voilà, et puis soutien aux enterrements civils, il est très attaché à l'idée qu'on peut défendre sa foi librement, mais aussi le droit de ne pas croire doit faire partie de la liberté de conscience, je crois que c'est assez important de le dire. Il est favorable à la séparation des églises et de l'État. Donc là, il y aura une continuité du père au fils, même si, pour être moins présenté, la liberté, c'est surtout la liberté des églises, qui le revendique. C'est ça, surtout, qui est important. Il sera finalement sénateur et inamovible en 1883, donc au Sénat. Donc un engagement quand même assez différent de celui que je vais vous décrire pour son fils. Conservateur, bien sûr, du point de vue politique, mais il a pu être présenté comme un des républicains de la génération des fondateurs. Vous voyez, donc, et son fils, ça a continué à s'en réclamer jusqu'à la fin. On a des témoignages sur, il y a une biographie, des mots présentés, une personnalité attachante, très chaleureuse, qui avait certainement eu un rayonnement incontestable. Et la mère de Francis est également une personnalité intéressante de l'histoire du protestantisme. Elle est surtout connue par ses ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents. On a parfois dit que c'était un peu la comtesse de Ségur protestante. Donc, alors il doit y avoir encore dans les bibliothèques de certaines familles protestantes des livres de Madame de Pressensé. Je pense que c'était la lecture un peu de nos grands-mères ou de nos mères, peut-être dans le public qui connaissent. En tout cas, c'est des ouvrages donc sur l'enfance qui sont des ouvrages qui se lisent avec plaisir. J'en ai fait pour moi par une étude. Ça se lit avec plaisir. Donc c'est une vraie pédagogue avec une très bonne connaissance des enfants et des adolescents et avec une vision de l'éducation liée d'ailleurs à ses origines suisses, aux pédagogues suisses qui l'intéressaient beaucoup. Alors c'est une vision, quand même, il y a beaucoup d'exigences morales bien sûr qui est demandée dans l'éducation, mais en même temps elle était contre les règles trop contraignantes, contre cette éducation bourgeoise très stricte, un peu rigoriste, qu'elle connaissait bien. J'ai oublié de dire que c'est quand même une famille, il y a des origines nobiliaires des deux côtés, c'est quand même une famille qui est de milieu vraiment, de la richesse. C'est au niveau du grand-père. Le grand-père qui était l'animateur de la société biblique donc de Londres et de l'étranger, qui n'était pas lui-même pasteur, mais qui était diffuseur de la Bible, était issu donc d'un milieu assez favorisé. Mais ce n'est pas une famille d'argent, si vous voulez. C'est une famille qui, forcément, a des fréquentations dans ces milieux qui sont des milieux d'une grande bourgeoisie protestante. Mais Élise de Pressensé, de ce point de vue-là, est un petit peu une rebelle, parce que ses idées ne sont pas du tout favorables à la société bourgeoise. Elle est, alors que son mari est un libéral en politique, elle se disait socialiste. Un socialisme certes évangélique, non-violent, mais réel. Et elle, ça l'amène à fréquenter d'authentiques socialistes ouvriers, dont un des chefs de la commune, Benoît Malon, que les Pressensé ont d'ailleurs sauvé après la semaine sanglante. Il a été caché par eux, puis il a pu échapper. Donc, alors c'est un peu paradoxal, vous avez un homme qui est un ami d'Adolphe Thiers, qui a écrit donc un ouvrage contre les communards, mais qui en même temps aide un des chefs de la commune à échapper à ce qui aurait été évidemment une condamnation brutale. Voilà, donc vous voyez cet héritage donc, qui est intéressant, donc une mère pédagogue, socialiste de cœur, voilà, une mère qui sera beaucoup plus tard, parce qu'elle est plus âgée que Edmond Pressensé, qui accompagnera son fils au moment de l'affaire Dreyfus. Les témoins la décrivent, je vous l'ai montré tous les deux. Voilà, donc vous voyez, là, alors, je suis désolé, je n'ai que des figures assez âgées, donc vous voyez, il a bien une tête quand même de pasteur, je vais les lire assez, qui peut impressionner, donc c'est un homme, oui, un peu, hein, donc, et il était, paraît-il, moins austère que la génération d'avant, quand même. Hein, bon. Et voilà, Élise de Pressensé, âgée, avec une de ses petites filles, peut-être Jacqueline Buckner, donc c'était Madame Marcel qui m'avait donné donc, cette photographie, donc qui est une petite nièce, hein, donc d'Élise de Pressensé. On la voit, donc elle est d'allure, hein, donc c'est des dames qui, paraît-il, accompagnaient son fils dans les meetings de Fusard, donc à la fin de sa vie, elle est morte en 1900. Alors, ben c'est la famille. Alors, la plus jeune des filles de Pressensé, qui s'appelait Émilie, a épousé le pasteur Alfred Bevenner, qui dirige, donc, et qui doit être l'oncle de Marc Bevenner, et qui dirige la maison d'édition évangélique de Paris, donc vers 1900, hein, jusqu'en 1900. Voilà, alors la mère, donc Élise de Pressensé, a décrit ses enfants et son fils. Il hein faut que j'en vienne au héros quand même, hein, donc maintenant. Dans un seul roman qui s'appelle La Maison Blanche, elle le décrit comme un adolescent rêveur, un pur intellectuel, toujours un livre à la main, très timide, mais habité par un grand idéal de justice et d'héroïsme. Et voilà les vers qu'il lui dédie un peu prémonitoire hein, pour sa 15e année. Ça se faisait pour la 15e année. Donc voilà. Tu veux donner ta vie à quelque juste cause et souffrir s'il le faut. Tu veux savoir beaucoup pour donner ta science à ceux qui ont opprimé l'ignorance et la faim et pour ouvrir leur âme à la grande espérance d'un autre lendemain. Tu veux avoir en toi comme une sainte flamme l'amour de la justice et de la liberté. Voilà. Donc elle a publié un recueil de vers, d'ailleurs. Élise de Pressensé. Voilà, donc le jeune Francis donc, vit dans ce milieu quand même pour soi, assez privilégié, un peu, disons-moi, un peu saturé de religion, mais en même temps ouvert hein, sur les débats, sur Élise de Pressensé défend les grandes causes. Hein. Elle défend la lutte contre l'esclavage hein, avant et au moment de la guerre de sécession. Elle défend les Polonais insurgés en 1863. Hein, donc il y a toute cette dimension-là. Et puis, donc, il a 17 ans et c'est la guerre de 70. Il vient de passer les épreuves du concours général, il est le premier prix d'histoire. Donc, mais, ça, c'est un brillant, mais il s'engage à 17 ans. Vous savez que les armées de Napoléon III sont battues à Sedan, hein, mais qu'ensuite, le 4 septembre, on proclame la République. Et que la République décide, avec le gouvernement de la défense nationale et avec Gambetta, de continuer la guerre, puisque les Prussiens veulent prendre l'Alsace et la Lorraine en particulier. Et donc la guerre continue jusqu'en janvier 1871, dans des conditions assez terribles, assez effroyables. Et c'est la défense nationale, on essaie de mobiliser. Et donc les Pressensés, patriotes, même s'ils n'avaient pas approuvé ni Napoléon III ni le déclenchement de la guerre, donc les deux fils s'engagent, le plus jeune ne peut être qu'ambulancier, hein, l'aîné se bat, il est marin, mais il se bat. Et donc il est, et on a son témoignage, hein, donc une génération quand même marquée hein, par la guerre de 70. Et c'est intéressant parce qu'après il va être accusé d'être un pacifiste, et donc si on regarde ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit dans son journal d'ambulance. Il raconte la bataille du Mans du 8 au 12 janvier 1871 et il dit: harassé, je repris la route de la ville, dont la blancheur neigeuse était interrompue, çà et là, par des taches noirâtres, qui étaient des cadavres et des flaques de sang. J'arrivais à temps pour dîner à la table d'hôte. Les paisibles bourgeois qui s'y trouvaient ne semblaient en aucun cas se douter que ce jour-là même, des hommes en grand nombre s'étaient fait tuer pour les défendre. Quelques-uns blâmaient même ouvertement la belle résistance qui venait d'avoir lieu, et craignait que l'ennemi ne se montrât trop rigoureux contre une ville si bien protégée. Hein, on le voit donc très, très remonté hein, contre finalement tous ceux qui ont une attitude de lâcheté. Hein, et c'est un peu des traits de caractère hein, aussi de Pressensé qu'on voit là. Le lendemain, quand j'ouvris les yeux, j'entendis les sons harmonieux de la langue tudesque. Jamais je n'éprouvais une impression de rage et de douleur analogue à celle que je ressentis
en voyant défiler fièrement les soldats de l'avant-garde, précédé d'un officier qui brandissait son épée et semblait prendre possession de la ville. Hein. Donc voilà, c'est intéressant, cette génération, finalement la guerre de 70, un peu oubliée évidemment par les deux grandes guerres mondiales, a marqué ces générations incontestablement. Alors, donc maintenant, on va retrouver la première partie de la vie de Pressensé, donc du libéralisme au dreyfusisme. Donc c'est un homme qui a une carrière finalement assez classique et assez brillante. Il commence par être un petit peu dans la diplomatie, secrétaire d'ambassade, d'abord très jeune, hein, d'abord à Constantinople et ensuite à Washington. Il avait fait des études de lettres et de droit, hein, conjointement. Et puis ensuite, alors très vite, il a une carrière de journaliste, de grand journaliste. Il entre au Temps, le Temps c'était le grand journal hein, de l'époque, un peu l'équivalent du Monde, mais quand même plus conservateur, fondé sous le Second Empire dans plutôt une perspective un peu libérale, avec pas mal de protestants hein, d'ailleurs dans la rédaction, mais qui ensuite était devenu, il passait pour la voie un peu officieuse du Quai d'Orsay, hein, de la politique étrangère de la France, et c'était un peu Francis de Pressensé, hein, cette voie officieuse du Quai d'Orsay, puisqu'il faisait l'éditorial, le bulletin de l'étranger ou de politique extérieure, qui était un peu dans le temps, un peu l'éditorial le plus important. Donc, de ce point de vue-là, c'est une figure reconnue. Il est d'ailleurs ami avec le ministre des Affaires étrangères des années 90, qui s'appelle Gabriel Annotto, qui est un républicain modéré. Il a publié un ouvrage sur l'Irlande, la question d'Irlande. C'est l'époque où on parle du home rule irlandais, de l'autonomie, et il exalte en particulier la figure du premier ministre britannique Gladstone, qui était un des grands hommes de Francis de Pressensé. Il a fait un autre livre sur le cardinal Manning, donc une figure de la vie religieuse britannique. Je vais vous en dire un mot de ses idées religieuses. Voilà, donc un homme vraiment qui a une carrière brillante. Il a la Légion d'honneur, il écrit dans la Revue des Deux Mondes, grande revue. On parle de lui pour l'Académie française. Ça, c'est l'aspect donc carrière et reconnaissance bourgeoise. Et puis, il y a l'aspect personnalité tourmentée et attirée par l'Église catholique. Donc, c'est le deuxième point là, que vous avez sous les yeux. Donc, un homme, donc, certainement, qui a, du point de vue de la vie personnelle, connu pas mal de souffrances personnelles. Il ne s'est jamais marié. Hein. Il a eu des problèmes de santé assez sérieux. Donc, une maladie handicapante hein, qu'il a eu très tôt, rhumatisme déformant, avec à certains moments des crises aiguës hein, d'inflammation. Et on le soignait avec de la morphine, et donc il avait vraiment beaucoup de douleurs. Ça revenait périodiquement, ça entraînait des formes de dépression. Il est très corpulent, il marche avec des cannes, il est myope, il a les yeux demi-fermés. On va revoir son portrait, du coup. Hein. Donc, on le voit là, hein, donc... il a un aspect extérieur plutôt austère. Hein. On parle de lui, ses amis, qui par ailleurs exaltent sa bonté, mais disent qu'il a un abord distant, la parole brève, qu'il semble ne pas regarder ceux à qui il parle. Donc, et c'est un homme, alors c'est un fou des livres, hein. Il a une passion, et donc il passe tout son temps à acheter des livres dans sa bibliothèque. Il a une érudition que ses amis qualifiaient de prodigieuse à l'époque. Alors, j'en ai quelques témoignages. Là, vous voyez sa page, il est là, hein, l'ouvrage. Là, c'est son journal personnel, où il rédige un peu ses impressions. C'est une sorte de journal intime, mais c'est plutôt un journal de lecture et de références culturelles. Alors, c'est commencé en 1895. Je ne sais pas si on arrive à lire. Voilà, alors il passe du grec à l'anglais et du l'anglais au français. Il rapproche Shakespeare d'un débat à la chambre ou des choses comme ça. Hein. Donc, il est toujours un homme vraiment de très, très grande culture. Et donc, il a alors un tempérament qu'on peut qualifier de très religieux, même s'il est fils de pasteur, mais pas pasteur lui-même. Hein, donc, il n'a pas suivi. Alors, c'était assez fréquent hein, dans les familles protestantes du 19e siècle, mais aucun des deux fils Pressensés n'est pasteur, mais il a donc une vie religieuse importante et c'est assez en un sens un peu surprenant, il est attiré, très attiré par le catholicisme dans les années entre 1895 et 1898. Il a failli se convertir. Il y a eu un certain nombre de conversions à l'époque. La plus célèbre, un peu avant, est celle de Paul Claudel. Hein, donc, voilà. Et donc, voilà, donc on a une page de son livre, voilà ce qu'il écrit, parce qu'il trouve, il cherche, il est attiré par... Ben, par ce qu'il y a de plus catholique dans le catholicisme, c'est-à-dire la liturgie, les solennités, la pompe de l'Église, les sacrements et l'Eucharistie. Hein, l'idée du contact direct avec Dieu, hein, donc par la présence réelle dans la communion. Et petit passage, là, je ne sais pas si on peut le lire, donc voilà ce qu'il dit, « En pratiquant quotidiennement pour mon culte intime et personnel les offices de l'Église, l'année ecclésiastique, donc... » Il suivait de manière privée, si on peut dire, les offices catholiques. La splendeur de ces services, leur inspiration divine, leur efficacité pour l'âme me saisissent. On n'a pas besoin de beaucoup d'arguments pour sentir la vérité quand on la touche, quand elle agit directement sur vous. Comment douter de la réalité d'un moyen de grâce quand par son canal, la grâce abonde et surabonde et comme une pluie bienfaisante vient arroser votre âme desséchée. Et il disait en même temps que le protestantisme libéral, on n'arrive plus à saisir le Christ, il devient comme une sorte de fantôme crépusculaire, à force de... Donc, vous voyez, un homme qui semble-t-il, à ce moment-là, et il avait certainement une attirance, il aurait pu entrer dans les ordres ou dans une congrégation religieuse. Et pas du tout. Hein? Donc, c'est l'affaire Dreyfus, et alors il a complètement changé d'orientation. Donc, c'est le... je vous remonte le plan, l'engagement de Dreyfusard, une nouvelle naissance. Donc, on va voir les caricatures Dreyfusard. Donc, on change un petit peu de monde. Donc, l'engagement de Dreyfusard, une nouvelle naissance. Donc, pas de vie contemplative, une vie active, une vie d'homme engagé, de militant. C'est pas du tout ça. Donc, il s'engage dans la défense du capitaine Dreyfus, et du coup, il rompt en quelques mois, hein, entre janvier et juillet 1898. Il rompt avec ses orientations politiques et religieuses antérieures. Il va se proclamer révolutionnaire, socialiste, en tout cas, Dreyfusard tout à fait ardent. Donc, l'élément décisif, c'est le procès Zola. Donc, janvier 1898, Zola, j'accuse, donc... lance son acte d'accusation contre tous les chefs de l'état-major d'avoir accompli un faux pour faire condamner un innocent et dit « traînez-moi devant les juges si vous l'osez, hein, lettre ouverte au président de la République ». Et donc, il y a eu un procès Zola. C'était la seule façon de rouvrir l'affaire Dreyfus parce que le véritable traître, qui s'appelait Esterhazy, avait été acquitté, hein, donc à la fin 1897. Et donc, ce procès Zola était l'occasion pour Zola et ses témoins de parler de l'affaire Dreyfus et d'obliger les militaires à rompre le silence. Pressensé a suivi, je l'appelle Pressensé tout court, souvent, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, dans sa vie politique. Donc, il suit, il écrit à Zola après le procès. Alors, il dit qu'une des choses, il l'entend, il habitait près du boulevard de Port-Royal, il y avait de grandes manifestations anti-Dreyfusard au moment du procès Zola, il dit, j'ai entendu résonner cette clameur sinistre mort aux Juifs, et ça l'a beaucoup frappé. Hein. Donc, c'est un des éléments hein, dans son engagement, et il félicite Zola d'avoir incarné la protestation de la conscience nationale et d'avoir eu l'honneur d'être frappé pour le droit. Et il ajoute... Il y aura en France, pendant que vous expirez le crime d'avoir parlé haut et net au nom de l'imprescriptible conscience, des hommes pour poursuivre votre œuvre, pour monter à la brèche à leur tour et pour réclamer sans relâche la lumière, la justice et la vérité. C'est des mots Dreyfusard, hein, justice et vérité. Donc, il s'engage et participe à la création de la Ligue des droits de l'homme, qui a été fondée à l'initiative d'un ancien ministre républicain, qui était un républicain modéré, ami de son père, qui s'appelait Ludovic Trarieux. Il renvoie, alors acte symbolique, il renvoie sa Légion d'honneur. Hein, il sera radié d'ailleurs de l'ordre, ce qui est très rare, parce que l'ordre de la Légion d'honneur avait suspendu Zola hein, de son grade qui devait être de commandeur.
Alors, et il veut mobiliser le peuple. Il dit, ça ne suffit pas d'être des intellectuels qui défendent Dreyfus, il faut que le peuple soit avec nous et qu'il ne manifeste pas avec les anti-Dreyfusards. Donc, il devient une sorte de conférencier itinérant de l'affaire Dreyfus. Il part dans des meetings, il n'hésite pas à s'associer avec tous ceux qui voulaient défendre Dreyfus, y compris des anarchistes, des socialistes révolutionnaires, ce qui lui vaut de nombreuses attaques. Hein, la presse anti-Dreyfusarde dénonçait, je cite, « ce fils de pasteur dont l'admiration pour Ravachol et Caserio, c'était, car Ravachol, c'était le, hein, l'anarchiste par définition, responsable de plusieurs attentats à la bombe, et Caserio, je crois que c'était celui qui avait tué le président Sadi Carnot, hein, donc voilà, dont l'admiration pour Ravachol et Caserio n'a d'égal que son amour indiscret pour les petits verts. L'image austère du protestantisme était en collision avec la réputation des anarchistes, hein, qui étaient soit des voyous, soit des buveurs de cabaret, des stabilés. Hein, voyez, hein, la... Et il écrivait dans le temps, il n'y avait pas journal plus bourgeois, et qui s'était davantage indigné des attentats anarchistes dans les années d'avant. Donc, vous voyez, il y avait là quelque chose de frappant. Hein, d'accord. Et on l'attaque pas mal sur ses origines protestantes. Vous voyez cette caricature, là, le bloc, c'est une feuille anti-Dreyfusarde. Il a la Bible à côté de lui, ici. Enfin, moi, je la montre, mais ça, vous devez le voir. Hein, donc, à sa droite. Et puis, il a un chapeau rond qui est plus ou moins considéré comme la face que portait les clergyman anglican. Hein. On l'accusait aussi d'être un agent britannique. C'est 1898, c'est Fashoda. On a failli faire la guerre avec l'Angleterre et les nationalistes se sont excités. Hein, donc, voilà. Exemple de caricature. Hein. Dreyfusarde. Alors, il a été à plusieurs fois carrément roué de coups, hein, parce que Anatole France le dit, comme il n'y voyait rien, on lui cassait son lorgnon au début, et en plus, comme il y avait des cannes, il ne pouvait pas marcher, donc il prenait pas mal de coups, parce que ça se bagarrait pas mal hein, dans les meetings, et ça lui a donné une réputation, un prestige hein, au sein de la Ligue des droits de l'homme. Mais bon, malgré tout, les Dreyfusards, la propagande Dreyfusarde a porté ses fruits. Hein. Et donc, il est venu hein, dans la région. En mars 1999, j'ai retrouvé dans le bulletin de la Ligue des droits de l'homme, il est venu à Lédignan, à Andives, à Saint-Jean-du-Gard, à Mialet. Il a parlé, et les protestants, dans l'ensemble, étaient Dreyfusards. Hein, donc, voilà. Il dit, à Mialet, j'ai parlé devant 500 montagnards debout, au pied des roches où se réfugiait leur père, traqué par les dragons de Villars. Hein. Et donc, voilà. Et souvent, ça a venu d'ailleurs entraîner la création d'une section de la Ligue des droits de l'homme. Et il y en a eu beaucoup, hein, pays protestants, à ce moment-là. Donc, c'est un grand Dreyfusard.
Pourquoi
Durillon ? Alors, le Durillon, c'est parce qu'il s'était battu en duel avec Maurice Barrès, donc grand écrivain nationaliste et anti-Dreyfusard. Il l'avait provoqué en duel, il s'était battu en duel, mais Barrès avait choisi l'épée comme arme et Pressensé avait une main complètement déformée. Et donc, sur le pré, il voulait se battre, mais les témoins ont dit qu'il ne pouvait pas se battre. Et donc, on l'a accusé, évidemment, d'être un lâche et que d'avoir s'être défilé à cause d'un durillon à la main. Vous voyez, donc, voilà. Donc, bon, on a d'autres images. Hein, donc, alors, il est un des 12 remparts d'Israël, hein, toujours pareil. Vous voyez les remparts d'Israël, il y a Zola, tout en haut, là, il est sur un pot de chambre. Il y a Jaurès juste à côté, il y a sur la deuxième colonne, le deuxième partant de la gauche, c'est le colonel Picard, et puis Pressensé est en bas à gauche. Hein, donc voilà, hein, il est, on va le voir de plus près. Sur la marmite, il y a écrit « pot-au-feu anarchiste hein, », donc il fait un pot-au-feu anarchiste. Il est en redingote Louis-Philippard, là c'était sans doute à cause de ses origines paternelles et grand-paternelles, une famille qui passait pour fidèle à Louis-Philippe, mais ça remontait à loin, alors on lui a mis une redingote. Donc le vieux réacte Pressensé fait un pot-au-feu insensé, louant Dreyfus, ce monarchiste, s'allie avec les anarchistes. Et vous voyez, il a une bannière comme dans la fête Dieu, mais dessus il y a un juif, caricature antisémite. Hein. Qu'on devine. Donc voilà. Et on le voit là en dindon, on l'accuse d'être vaniteux. Là, c'est le musée des horreurs. C'était le bestiaire des Dreyfusards, vu par les anti-Dreyfusards. Ouais, il a été pas mal caricaturé. Voilà. Et donc, pour lui, c'est comme une nouvelle naissance, mais je ne peux pas beaucoup développer. Voilà ce qu'il en dit. Il nous restait à prendre la grande leçon, contempler tour à tour tous ceux qui ont trop tôt désespéré de l'humanité. C'est la souffrance, la bonne souffrance, c'est le péril suprême. Tous nos droits et toutes nos libertés en danger. la justice voilée, le crime impuni, dominateur, tout-puissant. C'est la formidable crise que traversent nos institutions, les principes éternels, les franchises élémentaires. C'est l'épreuve redoutable à laquelle ont été soudainement mis les cœurs, les esprits, les caractères, les consciences, qui nous aura rendu l'espoir, rouvert de larges horizons, redonné la joie de vivre et l'ardeur de combattre. Il a vu dans cette lutte pour défendre un innocent, mais pour aussi défendre les droits de l'homme et les principes qui fondaient la République, hein, de justice, de vérité, il y a vu une sorte de renaissance, et presque au sens nouvelle naissance, presque de conversion. Hein. Donc, quelque part, il y a cet héritage du réveil chez lui, si vous voulez, même s'il l'a transposé, évidemment, dans la vie politique. Et donc, il s'engage pour les droits de l'homme et la République laïque. Il est président de la Ligue des droits de l'homme de 1903 à 1914. Il développe donc l'assistance, parce que la Ligue des droits de l'homme s'occupait de tous les cas individuels. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations spécialisées. Alors, vous voyez, maison de confiance, Société des droits de l'homme. Ici, on ravaude et on répare gratis les erreurs judiciaires. Et le bus, je l'ai retrouvé, c'est un bus en plâtre, dans les sous-sols de la bibliothèque d'histoire du protestantisme. Et je trouve qu'il est pas mal. C'est presque la meilleure image de Pressensé, parce qu'il est, il est amusant, il est débonnaire. Hein, donc, voilà. En même temps, c'est une caricature plutôt amicale, semble-t-il. Oui, il y avait beaucoup d'engagement individuel. C'était parfois pour une pension d'une veuve qui avait perdu son mari. C'était pour un petit soldat qui avait trop bu et qui avait insulté son officier et qu'on envoyait au bagne. Mais c'était parfois pour des plus graves, hein, pour des affaires assez importantes, dont des affaires dans les colonies, hein, assez souvent, hein, assez tragiques, dramatiques. Donc, c'est un homme qui s'occupe, il a consacré une bonne partie de sa vie à ça, à animer la Ligue des droits de l'homme, qui est devenue une grande organisation, hein, de 100 000 membres à l'époque, c'est assez important. Hein, il y avait une sorte de conseil juridique un peu dans chaque région. Voilà, et donc voilà comment le décrit le philosophe Alain, donc son rôle de président des droits de l'homme en 1914, à un moment de sa mort. Donc le philosophe Alain, qui était un grand moraliste, dit de Pressensé, le chef de la Ligue des droits de l'homme, était digne de ses nobles fonctions. Chacun connaît au moins par l'image cette face carrée et équilibrée, symbole du juridique. J'ai récemment vu de près ce juge des juges, tour imprenable. Ses yeux, comme on l'a dit, souvent fermés par crainte de la lumière qui aveugle, mais soudain découvrant leur magnifique regard et balayant toute chose autour comme un phare. Nul pli d'amertume, nulle petitesse, pas le moindre retour sur soi. Juste ce qu'il faut de mépris pour juger droit. Cet homme, depuis 10 ans, n'a guère écrit que pour les faiblesses et contre les puissants. Voilà, c'est un bel hommage, hein, donc, à Pressensé. Il joue un rôle, donc c'est de l'anticléricalisme intransigeant à la séparation des Églises et de l'État. Alors, au lendemain de l'affaire Dreyfus, il a une grande colère contre l'Église. Il a l'impression que l'Église a soutenu massivement les anti-Dreyfusards. La partie la plus voyante, hein, de l'Église catholique l'a fait. Hein, le journal La Croix des Pères Assomptionnistes, qui était en mettant un journal anti-juif, hein, a été, et ce n'est pas vrai, hein, de tous les catholiques, mais la minorité catholique dreyfusarde s'est peu fait entendre. Et une grande partie, hein, de l'Église et des nationalistes, hein, se sont retrouvés au moment de l'anti-dreyfusisme. Et donc, ça explique, hein, sans doute cette grande colère qui fait que dans les années qui suivent, hein, vous savez que les années entre 1900 et 1905 sont un peu un point culminant de la lutte entre cléricalisme et anticléricalisme. Il y a une poussée anticléricale marquée par le ministère d'Émile Combes, le petit père Combes. On a dit que c'était un dévoreur de curés. Il expulse les congrégations et tout cela, Pressensé le soutient. Il a été élu député en 1902. Il fait partie de la majorité du bloc des gauches et il soutient tout, hein, y compris l'expulsion des congrégations, y compris dans l'affaire des fiches, hein, où le général André se faisait, qui était le général ministre de la guerre du ministère Combes, il se faisait renseigner sur les opinions politiques des officiers, s'ils allaient à la messe, hein, par les officiers francs-maçons. Donc ça a fait scandale. Et Pressensé s'est fait, et sans doute à juste titre, hein, au sein même de la Ligue des droits de l'homme, il y a certaines grandes figures, dont l'historien Gabriel Moreau, qui disent qu'il a peut-être pas accompli ce qui était la vraie mission de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'est... Je vous présente un homme que je trouve une grande figure, une grande conscience, mais il faut bien voir aussi tous les aspects de lui. En même temps, incontestablement, pour lui, c'est, à l'époque, il a un but politique majeur, la séparation des Églises et de l'État. Et il est convaincu que pour ça, il faut un affrontement frontal avec l'Église catholique, sinon les républicains n'iront pas jusqu'au bout. Hein. Donc, voilà. Et il dépose en 1903 un projet de loi long, argumenté, précis, qui est un peu la matrice de la loi de 1905. Avec, dans le projet présensé, qui déclenche le processus législatif, les grandes formules. Hein, la République ne... On a changé, protège, on reconnaît. Hein, mais c'est la formule de la loi de 1905. Et donc, il dit par ailleurs que la République doit garantir la libre expression des opinions religieuses et autres, ce qui n'est pas tout à fait assure la liberté des cultes. Hein, donc, son projet de loi est plus intransigeant que la loi Briand. Mais elle ouvre les voies donc, à la loi de 1905 et en 1905, Pressensé défend une vision plus libérale hein, de la loi, qui est celle finalement d'Aristide Briand. Il soutient en particulier, il accepte qu'on donne les biens hein, aux associations cultuelles à titre gratuit, ce qu'il n'acceptait pas en 1903, et il demande, c'est l'amendement à l'article 4 de la loi de 1905, il demande qu'on attribue donc les biens et les édifices aux associations qui se conforment aux règles d'organisation générale du culte dont ça se propose d'assurer l'exercice. Formule un peu alambiquée, mais il faut le dire qu'on garantissait à l'Église catholique que c'est elle qu'on reconnaîtrait pour seule légitime, qu'il n'y aurait pas d'association cultuelle dissidente de schisme. Ce qui a déçu certains protestants, hein, qui auraient espéré une démocratisation interne de l'Église catholique. Donc le pressenti de 1905 a un peu perdu sa grande colère de 1901-1903 et davantage encore par la suite, il va aller dans un sens de défense nette de la liberté de conscience. Alors là, on retrouve peut-être une sensibilité à laquelle on adhère davantage. En 1907-1908, il défend à Madagascar ce qu'il appelle les droits, on a dit à l'époque des indigènes, la liberté de conscience des indigènes, contre le gouverneur Ogagneur, qui avait fait fermer les écoles protestantes et un certain nombre de temples privés, l'Union chrétienne de jeunes gens de Tananarive, une politique très laïque, mais en même temps de contrôle très strict des malgaches, parce qu'il faut savoir que le protestantisme avait été la religion hein, de hein, la reine Ranavalona et des... Hein, et qu'elle pouvait apparaître comme une sorte de religion nationale malgache. Et donc, Pressensé défend, entre en conflit avec le gouverneur Ogagneur, qui était pourtant un ancien Dreyfusard, un membre de la Ligue des droits de l'homme. Il a été très attaqué. Il a été battu en Lyon en 1910 à cause de ça, hein, parce que Ogagneur était ancien maire de Lyon. Il défend aussi, contre Clémenceau, à la Chambre, des officiers qui étaient allés à la messe, hein, donc à Lens. Hein, il entre en conflit avec Clémenceau. Et donc là aussi, hein, donc, il défend la liberté de conscience tous azimuts en 1908-1909. Voilà. Donc, et puis il défend, c'est mon dernier point, hein, les peuples opprimés et la paix européenne. C'est peut-être le plus important encore dans son activité. Il est donc un des animateurs de la revue Pro-Arménia, que vous voyez ici, revue assez austère, depuis 1896. Il y a de grands massacres des Arméniens, il n'y a pas eu que le génocide hein, de 1915. Enfin, donc ça a été précédé à l'époque du sultan ottoman Abdülhamid par des massacres très importants, peut-être 500, 600 000 morts hein, dans les années 1896-97. Enfin, c'est peut-être, le chiffre est peut-être seulement de 200 à 300 000 victimes, hein, on n'est pas très sûr. Et donc il y a eu une protestation animée au départ par Jaurès, un certain nombre d'intellectuels, et Pressensé la rejoint et il devient un des principaux animateurs. Au moment de l'affaire Dreyfus, il défend Dreyfus et il va défendre les Arméniens en même temps. Et il a un grand remords d'avoir soutenu le ministre Anoto, qui avait, pour garder le contact avec l'Empire ottoman, minimisé hein, les massacres. Voilà ce qu'en dit son ami l'helléniste Victor Bérard. Un jour, il fut mis devant la fosse béante d'où montaient les noires vapeurs du sang arménien. Comme dans le mythe antique, cher à ce cœur d'hellénisant, Il sembla que la terrible odeur, le goût même de ce sang qui lui montait aux lèvres, réveillait brusquement en lui une âme de justice et de révolte que lui avaient transmise sans doute les longues générations d'une race de moralistes et de protestataires. Francis de Pressensé fut dès lors le moraliste de la communauté humaine, le porte-parole de la justice internationale et de la morale universelle. Et il défend la paix, hein, il défend la paix européenne, comme Jaurès, hein, donc très proche de Jaurès là-dessus, comme le Jaurès de l'Armée nouvelle, il pense qu'il faut résister en cas d'agression. Ce n'est pas un pacifiste intégral, ce n'est pas un non-violent de ce point de vue-là. Il pense qu'il faut défendre, si un peuple est attaqué, injustement attaqué, il faut résister, hein, il faut résister à l'oppression. Mais il faut tout faire pour empêcher ce qu'il considère comme la catastrophe qui menace, c'est-à-dire le conflit majeur entre les grandes nations d'Europe qui doivent s'unir, hein, pour lui c'est très important. Et il n'hésite pas, comme le mouvement socialiste de l'époque, à penser que pour cela, il faut envisager tous les moyens. Ce qui fait que, face à la Chambre des députés, il n'hésite pas à dire, à défendre même les anarcho-syndicalistes qui appellent à grève générale, hein, l'antimilitarisme et même l'antipatriotisme. Parce que pour lui, hein, donc, c'est des gens qui vont trop loin, certes, mais qui peuvent peut-être donner à réfléchir, hein, donc faire comprendre, hein, à ceux qui dirigent que s'il y a une grande guerre qui se déclenche, il y a une menace révolutionnaire aussi, ce qui n'est pas tout à fait faux, ce qu'on considère ce qui s'est passé en Russie en 1917. Hein. Bon, en tout cas, il est très attaqué là-dessus. Hein. Il est déjà avec les anarchistes au moment de l'affaire Dreyfus, puis au moment, hein, de, hein, la grande campagne contre le militarisme dans les années 1907-1910 jusqu'en 1913. En même temps, il défend, lui, des moyens plus classiques pour la défense de la paix, comme l'arbitrage international. Mais là aussi, il est attaqué, parce qu'il demande que la France prenne l'initiative de proposer le désarmement. On est dans la paix armée et dans la course aux armements, et donc il dit qu'on devrait proposer de s'entendre pour faire un désarmement simultané. Alors, donc ça suscite une grande indignation, parce que donc la France, meurtrie par la guerre de 70, la France victime d'une injustice, ce n'est pas à elle, hein, de prendre l'initiative. C'est à ceux, hein, qui ont commis l'injustice de désarmer, pas à la France. Vous voyez, hein, donc il y a cette logique-là et on l'accuse d'abandonner l'Alsace-Lorraine. Grande accusation que lui fait Charles Péguy en particulier, hein, le grand écrivain, mais socialiste réfusard, mais passé au nationalisme, qui dénonce Pressensé avec beaucoup de virulence. Il dit de lui, il fait la politique de la paix à tout prix, il ne défend pas, hein, les Alsaciens, donc il accuse de contradiction. Il lui dit, si on est partisan de la paix à tout prix, c'est un système où ce n'est point l'acheter trop cher que de la payer de n'importe quelle iniquité. Mais dans un système, c'est contradictoire avec celui des droits de l'homme, où il est nécessaire de faire la guerre pour la justice. Donc il accuse Pressensé de contradiction. Ce qui n'est pas tenable, c'est la position de M. Francis de Pressensé de venir toujours nous parler de tous les peuples. Il a fait sa carrière là-dedans et sa fortune politique, et de ne pas vouloir qu'on parle des Alsaciens de Lorraine. Hein. Donc voilà, 1913, hein, juste avant la guerre. Les accusations de Péguy sont dures et sont sans doute injustes. Pressensé n'est pas du tout indifférent au sort des Alsaciens Lorrains. Il a des liens d'ailleurs avec par sa famille avec l'Alsace, il y va souvent, mais il est convaincu que les Alsaciens, en 1913, ne veulent pas d'une guerre où ils seraient, hein, pris entre les deux feux, où ils seraient obligés de servir dans l'armée allemande et tirer sur leurs frères qui sont partis de l'autre côté en 1870. Donc, il pense que le seul moyen de régler la question d'Alsace-Lorraine, c'est la paix, la négociation, le droit. Hein, et pour ça, il faut que la démocratie progresse pacifiquement, y compris en Allemagne. Alors, évidemment, les patriotes intransigeants l'accusent d'utopie à ce sujet. Hein. On ne sait pas ce qu'il aurait fait, par contre, évidemment, à partir de 1914. Mais le débat est là. C'est un vrai débat au moment de l'entrée en guerre de 14. Et donc, lui, il pensait que, comme Jaurès, que l'Europe pouvait s'acheminer vers la paix par le droit, par le progrès de la démocratie, qu'il ne fallait pas Donc couper cela et que peut-être on pourrait s'entendre, en particulier entre français, allemand et anglais, un peu les pays les plus avancés. Je termine sur Fressensé. Il est mort donc le 19 janvier 1914, donc c'est une mort de mort naturelle, il a eu une attaque, donc il est mort donc assez jeune. Il n'a pas connu cette grande guerre, hein, donc il s'était forcé d'empêcher. Donc il avait formulé brièvement cette dernière volonté en 1898, que je vous lis. « Je prie que l'on ne me fasse pas d'obsèques dites religieuses, non pas que je ne crois pas en un Dieu d'amour et de justice, mais je me suis délibérément séparé de toutes les églises et j'ai trouvé le maximum de religion dans le socialisme tel que je l'ai compris. Ma vie n'a pas donné ce qu'elle aurait dû donner, je compte sur l'indulgence de tous. » Moi, je trouve assez admirable c'est la noblesse de cette dernière phrase, hein, un peu mélancolique quand même. Hein. On voit un homme qui a beaucoup souffert. Donc, la famille de Fressensé a respecté sa volonté. Donc, il a eu des obsèques civiles. Mais il y a eu avant, elle a demandé au pasteur Wilfred Monod de venir au domicile pour présider auparavant une sorte de culte familial, là, dans l'intimité. Et Monod, dans ses mémoires, donc après la journée, précise qu'il s'est retiré avant l'arrivée de Jaurès, qui allait prononcer un discours d'une magnifique ampleur morale. Je termine sur les liens entre Fressensé et Jaurès, assez brièvement. Donc, on a envie hein, d'associer les deux hommes, même si la mort de Francis de Fressensé était moins tragique, moins symbolique que celle de Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914. On a envie de rapprocher ces deux grands défenseurs de la paix, disparus à la veille de la Grande Guerre. On a des témoignages sur l'amitié, sur les rapports qu'ils ont entretenus, très liés depuis l'affaire Dreyfus. Hein. Jaurès avait une sorte de supériorité, hein, d'ascendance, et logiquement, qu'il est plus connu. Mais il y avait entre eux deux une sorte de connivence. Ils étaient de la même génération. Jaurès avait 4 ans de moins que Fressensé. Ils étaient tous deux de grands intellectuels, pétris de culture classique, de grec, d'hellénisme, grands liseurs. Ça les mettait quand même un peu à part dans le Parti socialiste. Et des témoignages nous disent qu'ils se plaisaient à se rappeler mutuellement, en plaisantant, leurs racines religieuses. Fressensé traitait Jaurès de papiste et Jaurès, Fressensé, de parpaillot. Hein, donc, il y avait quelque part, alors qu'ils étaient tous les deux détachés de la religion, ces racines présentes. Et il est frappant de constater à quel point Jaurès, dans l'hommage qu'il a rendu à son ami, est sensible à son héritage protestant. Il n'hésite pas à parler dans le discours, hein, je vous parle là du grand discours, c'est un des grands discours de Jaurès, hein, qui est publié dans le tome 16 des œuvres de Jaurès qui paraissent chez Fayard. Donc le pasteur, il parle du pasteur Edmond de Fressensé, dit Jaurès, ce livre est fervent serviteur du Christ, ce libéral conservateur qui aurait peut-être vu avec angoisse son fils aller au socialisme révolutionnaire, mais aurait reconnu ce qu'il y avait de plus haut dans sa conscience, dans l'énergie héroïque par laquelle Francis de Fressensé affirmait sa nouvelle foi. Et Jaurès rapproche même du calvinisme paternel l'attitude de Francis de Fressensé. Il dit « Son père était habitué à rechercher sous le mal, sous la souffrance, le vice radical et profond. Et c'est d'un même regard, mais c'est sous la lumière de la science, que Francis de Fressensé, ne s'arrêtant pas aux apparences et à la surface, a pénétré jusqu'au vice profond, jusqu'à la racine essentielle des iniquités et des mensonges qui s'épanouissent à la surface. » Et je finis par une dernière citation. « Au-delà du Père, c'est à toute l'histoire de la minorité protestante française que Jaurès fait appel et rend hommage quand il retrace l'engagement de son ami dans l'affaire Dreyfus. Pour lui, les droits de l'homme étaient tout ensemble le patrimoine commun de tous les citoyens de France. Et dans ce patrimoine commun, le bien particulier, la propriété intime et sacrée de la race des persécutés qui avait subi sous l'Ancien Régime le supplice de l'intolérance. Il était de cœur avec la Révolution française, revendiquant le droit pour tous et descendant encore dans le passé, il se sentait, aux heures de souffrance, le frère de ses persécutés, le frère de cette humble femme des Cévennes, qui, refusant à Louis XIV le mot d'abjuration, écrivait, dans une pauvre orthographe émouvante, avec un clou arraché à la muraille, sur la dalle de la prison, ce seul mot, résister. Résister quand les puissants demandent l'humiliation de la conscience. » Voilà, c'est peut-être sur ce rapprochement qui fait de Fressensé le frère de Marie Durand, hein, la prisonnière huguenote de la Tour de Constante, mais aussi le frère de tous les persécutés, qu'on pourrait s'arrêter. Hein, donc, au terme de cette présentation de son parcours. Voilà.
Bien, alors merci Yannick Fabre pour cette présentation d'un personnage riche, culturellement, politiquement, socialement, hein, puisque vous avez évidemment abordé cet engagement très fort de présenter dans le socialisme. J'ai envie de dire que c'est une personnalité de basculement, hein, avec deux basculements majeurs, celui de 1898, où il fuit cette séduction du catholicisme pour s'engager dans le combat de Dreyfusard, intensément, qui va le conduire même à présider la Ligue des droits de l'homme, et on connaît l'importance de cette Ligue dans la défense des libertés. Et puis, autre basculement, en 1905, où il passe finalement d'un regard de la loi de séparation extrêmement rigide à un regard que j'ai envie de dire presque plus proche de celui des Cahiers de la Quinzaine, de Péguy, de Méjean, un regard extrêmement plus souple, et où on retrouve, comme tu l'as souligné, hein, la conscience huguenote avec cette absolue défense de la conscience, cette absolue défense de la liberté des droits de l'homme. Alors il y a beaucoup de questions, c'est une période extrêmement riche, hein, je trouve, le 19e siècle français, qui est quasiment méconnue d'ailleurs, hein, de nos contemporains. Et c'est pourtant fondateur pour notre société encore aujourd'hui. Je rappelais récemment notamment toute cette question de l'indépendance de la justice qui nous vient directement justement hein, de l'affaire Dreyfus et donc sur laquelle on assiste énormément aujourd'hui. Voilà, je suppose qu'il y a des questions. Si vous n'en avez pas, j'en ai beaucoup. Donc, mais j'espère ne pas être le seul à en poser. Des questions, des remarques. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Voilà, donc une question. Je répéterai la question pour que ce soit enregistré.
Alors, je pense que l'affaire Dreyfus de 1906 a été aussi grave que l'affaire Dreyfus, puisque donc, tous les officiers étaient fichés, et même les officiers compétents étaient mis de côté. Ce qui peut expliquer peut-être en partie les problèmes qu'il y a eu dans l'armée française, puisque au niveau des états-majors, c'était très orienté, et les premiers désastres militaires comme coup d'état de mort sont peut-être en partie liés à ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Francis de Présancé n'ait pas pris position contre cette affaire Dreyfus.
Oui, je vais vous répondre, Oui, bien sûr. Oui.
Pourquoi Francis de Présancé n'a pas réagi face à l'affaire des fiches?
Oui. Alors, nous sommes en fait, c'est en décembre 1904, au moment du... Hein, c'est la fin du ministère Combes. Et donc, ces cahiers, là, je vous ai montré des pages de ces cahiers, je les ai là. Hein, donc, nous montrent... Et c'est là qu'on voit, c'est tout le problème du pouvoir, si vous voulez. Éthique de... Hein, il y a l'éthique de responsabilité. Et donc, là, il le dit, hein, on pourrait dire c'est presque un homme de pouvoir qui parle, il dit, j'ai une arrière-pensée oblique. Hein, pourquoi j'ai défendu? Parce qu'il se rend bien compte dans son journal que, hein, par rapport au principe des droits de l'homme. Mais il dit, sans ça, on n'y serait pas arrivé. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Hein. On peut trouver qu'il a été dogmatique, sectaire, et que cette grande colère contre les catholiques, il n'a pas su de la maîtriser. Hein. Donc, voilà. Je crois qu'on voit bien d'où elle vient. C'est un amoureux déçu hein, de l'Église catholique. Il a failli se convertir, et au moment où il espère qu'ils vont défendre l'innocent, hein, il pensait que le comte Albert demain allait à la chambre défendre l'innocent, et puis voilà qu'il... Au nom de l'armée, ils disent qu'il faut condamner le juif Dreyfus, c'est un traître, etc. Donc, il en veut presque à mort, hein, donc à ça, donc quelque part. Hein. Bon, donc il y a ça. Ça, c'est l'affectif. Hein, ça, c'est l'affectif. Et puis, il y a le politique. Alors, il faut comprendre comment ça se passe, la séparation des Églises et de l'État. Il y a une minorité du bloc des gauches qui est pour. Hein. Donc, les socialistes, Présancé, Jaurès, Briand... un certain nombre de radicaux socialistes, comme Ferdinand Buisson, mais Émile Combes et la plus grande partie des radicaux, jusqu'en 1904, pensent qu'il faut garder le concordat parce qu'il faut contrôler l'Église. Hein, il ne faut surtout pas perdre. Comme ça, on peut empêcher les curés de parler en breton, vous savez. Hein, donc, on leur fait des bandements. Et donc, Combes s'est décidé à faire la séparation parce qu'il y a eu un conflit majeur avec le pape XI, qu'il y a des évêques qui ont été refusés, parce qu'ensuite il y a eu la rupture de relations avec le Vatican à cause du voyage du président Loubet à Rome. Hein, donc, voilà, et donc il se décide à l'automne 1904, c'est-à-dire au moment même où il y a les fiches. Et donc, Pressensé est convaincu que si le ministère Combes partait prématurément, donc là, la séparation ne se ferait pas. Hein, que tous ceux qui pensent qu'il faudrait donc peut-être ménager l'Église, en même temps, iraient dans ce sens-là. Donc, vous voyez, c'est complexe. Et puis, après, donc, une fois que... Mais en même temps, il y a cette histoire des officiers. Il faut ce que vous dites sur des organisations de l'armée, sans doute, un phénomène important. Mais pour Pressensé, quand même, une partie de l'état-major avait fait condamner un traître et avait eu cet esprit de corps. Donc, vous voyez, hein, il y a aussi cette colère contre un certain nombre de militaires. Elle est présente aussi. Hein. Je crois qu'il y a ça. Il y a l'aspect politique. Faire réussir la séparation à tout prix, et ne pas se couper hein, de la majorité Bloc des Gauches, parce qu'il faut bien comprendre que les militants du Bloc des Gauches, hein, les dévoreurs de curés de base, hein, pour ça ne les gêne pas, hein, cette histoire-là. Hein. Donc, d'ailleurs, dans la Ligue des droits de l'homme, quand Pressensé soutient Combes, il n'a pas de problème. Il y a quelques intellectuels comme Gabriel Monod qui protestent, mais la grande masse des militants, hein, ils sont d'accord. Par contre, quand il défend les officiers qui vont à la messe à Laon, alors là, il y a un tiers qui part. Hein. Il faut comprendre ça aussi. C'est passion hein, des militants à l'époque. Hein. Il y a tout ça. Hein. Donc voilà, je crois qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, donc, bien sûr. Hein. Mais je crois que c'est comme ça que ça s'est passé à peu près. À la fois pour la personnalité de Pressensé et pour l'ambiance de l'époque.
C'est vrai que sur cette question des fiches, il est en porte-à-faux avec ses origines protestantes, avec Monod.
Bien sûr. Ceux qui protestent sont essentiellement d'ailleurs des intellectuels protestants. Bah oui. Bien sûr. Alors le paradoxe, c'est que quand il défend ce que faisait Péguy en 1904, quand il le défend en 1908-1909, Péguy lui en vaut beaucoup trop à cause de l'Alsace-Lorraine et du pacifisme, et qu'il ne désavoue pas Gustave Hervé pour se réconcilier avec lui. Hein, donc voilà. Et il y a une sorte de chassé-croisé, si vous voulez. Hein. Donc, il fait qu'il ne sera jamais... Et donc, pour Péguy, il était l'exemple de la mystique qui a dégénéré en politique. Hein. Donc, et moi, je pense que c'est injuste de le voir comme ça, si on regarde tout son parcours. Mais c'est quand même un homme politique. Hein. Donc, voilà. Hein. Et Jaurès, d'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est au moment de l'affaire des fiches.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques?
Oui.
Vous avez dit que Élise de Pressensé a soutenu les insurgés polonais et autres.
Oui.
Une femme, de quelle manière elle s'y est prise?
Il y avait des réunions, des quêtes en faveur des Polonais. C'était plus important pour l'esclavage, parce qu'il y avait une société contre l'esclavage. Elle reçoit, mais c'est un peu de salon aussi, elle reçoit Madame Bechorstow, hein, donc l'auteur de la classe de l'oncle Tom. Et il y a la Société pour l'abolition de l'esclavage qui avait été fondée dans les années 1830, hein, donc, ou même à la fin des années 20, je crois. Hein. Donc, qui avait joué un rôle pour 1848, pour l'abolition de 1848, mais qui continue à cause des États-Unis. Et là, elle se mobilise. Alors, les Polonais, c'est dans ses poésies. Elle publie son recueil de poésie inspiré de Musset. Il y a une grande ode à la Pologne insurgée. Hein, voyez. Bon, on ne peut pas dire qu'elle ait eu un rôle politique véritable, mais elle va sur la place publique pour les défendre, quand même.
Est-ce qu'il y a un lien entre Élise de Pressensé et Domiti de Pressensé, qui a publié les fameux petits fascicules?
Alors, je lui avais demandé, et non.
Je crois non, il n'y a aucun
non,
lien.
Non, il n'y a pas de lien. Ah, ouais. Alors, il n'y a pas de descendant Pressensé qui s'appelle Pressensé.
C'est l'auteur c'était Émilie.
Oui, Émilie, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de descendant direct des Pressensé, ça s'appelle Pressensé. Il s'appelle de Ransard, ou bien Bugner, ou bien Bernus, hein, puisque les deux sœurs avaient épousé deux pasteurs, dont Alfred Bugner pour la plus jeune, et je ne sais plus comment il s'appelait, un pasteur helvétique s'appelait Bernus, et donc il y a eu plusieurs enfants. Et donc le frère aîné de Francis, qui s'appelait Victor de Pressensé, a eu une fille, Germaine de Ransard, qui a épousé un pasteur, hein, qui s'appelait le pasteur de Ransard. Hein, donc voilà. Donc il y a des descendants, mais ils ne portent pas le nom de Pressensé. Hein. Du moins à ligne directe. Après, c'était une grande famille quand même. Hein, ouais, oui.
D'autres questions ? Quels sont ses rapports avec Ferdinand Buisson et la libre pensée ?
Alors, avec Ferdinand Buisson, ils se connaissent très bien, et depuis toujours, parce que les parents Pressensé recevaient des étudiants et encadraient des étudiants dans les années 1860, et Buisson, qui avait 7 ans, je crois, de plus que Pressensé, ou 6 ans, donc était une personne qui était très souvent dans leur foyer, hein, qui recevait. Et donc, il se connaissait très bien. Il était à la Ligue des droits de l'homme. Il a succédé à Pressensé à la Ligue des droits de l'homme. Ferdinand Buisson était radical socialiste. Il a participé à la libre pensée, ce que n'a pas fait Francis de Pressensé. Alors, Francis de Pressensé, je crois que ces quelques mots de testament le disent bien. C'est une sorte de libre croyant, hein. C'est pas vraiment la libre pensée, mais remarquez, Ferdinand Buisson était certainement spiritualiste, hein, mais bon, c'est pas très 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 net. Et lui, mais bon, il n'a pas sur le plan philosophique, à partir du moment où il quitte les engagements religieux, il ne discute pas sur le plan philosophique. Ça devient vraiment quelque chose de purement privé, hein, le rapport à la religion, hein, qu'il n'a pas perdu. Dans son journal, il parle de saint Paul et il compare la révolution du christianisme telle que l'a diffusée saint Paul avec ce qu'ils essayent de faire, eux, les socialistes. Hein, vous voyez, hein, donc, il y a quelque chose comme ça. J'étais curieux de savoir s'il y en avait parmi vous qui connaissaient Madame de Pressensé et qui auraient lu des ouvrages d'Élise de Pressensé. Apparemment non, hein. Donc c'est si vous connaissez un peu.
Dans la pédagogie.
Oui.
Artistique,
oui.
Madame, je n'ai pas lu.
Oui, 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 oui.
Mais il y a des enseignants.
Oui, oui, oui.
En italien.
Oui.
Madame Montessori. Par
oui,
exemple.
Bien sûr, oui, oui.
C'est une suite.
Se sont inspirés, oui, 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 ce que je disais,
et
oui.
Je parle d'Arnaud Stern.
Oui, oui. Oui, oui, oui.
Moi, oui. Ce que j'ai connu.
Oui.
Et c'était une pédagogie de Madame de Pressensé,
oui.
Au-delà d'une religion.
Oui, 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 oui.
Et j'avoue que moi-même,
oui.
Excusez-moi,
oui.
J'ai exercé oui. La peinture pour les enfants.
Oui.
Avec cette ambiance, avec
oui.
Cet
oui, oui, oui.
Épanouissement,
oui, oui.
De créativité personnelle
ah.
Pour s'épanouir.
Oui, oui. Oui, certainement. Et c'est très frappant. Alors, c'est des romans qui ont été oubliés, c'est vrai, mais la vision de l'enfance, moi, m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est une grande figure, Élise de Pressensé. Ah, oui. Oui.
Il y a une chose importante, c'est que dans la salle, il y a quelques malgaches.
Oui.
Dans moi.
Oui.
L'épisode que vous nous avez
oui.
Parlé,
excusez-moi, oui.
Si ça vous intéresse.
Oui.
Oui. Oui. Mon arrière-grand-père a reçu le prix ici.
Oui.
Et mon grand-père, que j'ai bien connu,
oui.
A participé à cela.
Oui.
Et mon grand-père, moi j'ai participé à la révolution malgache
oui.
Des années 40.
Oui, d'accord, oui.
J'en ai pâti.
Oui.
Mon grand-père, tout le courrier, tout ce qu'il avait
oui, oui.
De Dreyfus et tout, a été brûlé par les Français et les Jésuites.
Oui.
À Tananarive, parce qu'il avait brûlé le malgache.
Oui, oui.
Il est mort très rapidement. Moi, je n'avais que 18 ans, je suis un peu vieille, mais j'ai connu tout ça par mon grand-père.
Oui, c'est la question de la
oui.
Laïcisation des écoles.
Oui,
des
oui.
Voilà.
Oui, mais je peux vous redire un peu plus, d'un peu plus près, si vous voulez, parce que c'est vrai que c'est un épisode important.
Donc,
Voilà, donc ce qui se passe.
C'est toute la question de la laïcisation des écoles missionnaires à Madagascar.
Oui,
hein,
voilà. Alors, il faut se savoir que la Ligue des droits de l'homme, par rapport au problème des colonies, a une position qui est celle de beaucoup d'hommes de conscience de l'époque, c'est-à-dire ils se mobilisent quand il y a des scandales, hein, quand il y a des exactions. Ils le font. Par exemple, il y a eu un scandale en 1905 au Congo. Il y a deux indigènes, comme on disait à l'époque, qui ont été assassinés dans des conditions assez horribles, hein, infamantes. Hein. Donc, un administrateur colonial en avait fait sauter un avec un bâton de dynamite le jour du 14 juillet. Et donc, il y a eu un grand scandale. Et donc, la Ligue des droits de l'homme s'est beaucoup mobilisée contre ça, hein, contre les scandales du Congo. Mais, par contre, ils pensaient qu'on pouvait donner un sens plus positif à la colonisation. Ce ne sont pas des anticolonialistes au sens moderne, hein, voyez, hein, du tout. Et donc, alors, le cas de Madagascar a été particulier, puisque donc, on avait établi le protectorat en 1896, mais à la suite de la révolte malgache, on avait destitué la reine Rana Valona et on avait établi avec le général Gallieni une colonie d'administration directe. Bon, avec une politique de pacification qui avait été dure. Et le problème du protestantisme malgache, qui s'était développé en gros depuis 1820, c'était des missions, donc il y avait différentes missions britanniques, mais aussi américaines et même norvégiennes. Hein, donc, et le protestantisme s'était développé à Madagascar et avait été adopté par la famille royale, là, donc dans ce peuple dominant des hauts plateaux, les Mernes, là, donc. Et donc, d'une certaine manière, il pouvait être une sorte de réceptacle de l'identité malgache. Hein. Et d'ailleurs, au moment où se déclenche la révolte en 1897, on a accusé les protestants français, parce qu'ils avaient pris un peu la succession de certaines missions hein, britanniques ou étrangères, ou du moins on leur demandait de le faire, mais on les a accusés de favoriser l'insurrection, ce qui n'était pas vrai, hein, d'ailleurs. Hein. Mais, et c'est le moment, vous voyez, 1896-98, où le nationalisme français, je vous ai parlé de Fashoda, est très anti-anglais, et donc les protestants sont beaucoup attaqués comme des agents, pratiquement, de l'Angleterre, hein, pour saper notre empire colonial. Hein, donc voilà. Alors, après, c'est autre chose. Le gouverneur Augagneur, c'est un laïc pur et dur, c'est un franc-maçon, c'est un médecin. Il a été maire de Lyon et il est socialiste comme Pressensé, mais il ne rejoindra pas le Parti socialiste unifié de Jaurès. Il sera socialiste indépendant. Et donc le gouverneur Augagneur arrive à Madagascar à l'automne 1905 et très vite, il prend une position donc, de laïcisation des écoles au nom de l'application de la loi de séparation hein, des églises et de l'État, mais en même temps... en prenant en compte, il le dit clairement, hein, il écrit des brochures qu'on trouve à la maison des missions au DEFAP, là, à Paris, hein, il le dit clairement que le protestantisme, c'est un agent de rébellion et qu'il faut empêcher qu'il se développe. Donc, il ferme. Alors, il y avait beaucoup d'écoles privées protestantes qui avaient été faites, souvent dans des temples, d'ailleurs, hein, qui étaient des écoles élémentaires. Hein, donc, voilà. Et puis, il y avait... donc différentes activités, et donc il en a fait fermer énormément. Et donc, dans la Ligue des droits de l'homme, c'est un conflit frontal au Congrès de Lyon de 1908, il me semble. Hein, donc, ce n'est pas Pressensé d'ailleurs qui rapporte là-dessus, c'est un de ses amis qui s'appelait Pierre Quillard, qui n'était pas protestant, parce que lui, on l'accusait d'être un jésuite protestant. Hein, c'est vrai, son beau-frère dirigeait la maison des missions, hein, donc protestante. Mais il se défend d'agir au nom des intérêts du protestantisme. Il dit qu'il le fait, hein, qu'on m'appelle un jésuite, non, peu m'importe, hein, je défends la liberté de conscience et les droits des malgaches, les droits des indigènes. Et il dit que c'est ça qui est fondamental, parce qu'on ferme les écoles, mais on n'a pas les moyens de faire des écoles laïques. Il dit donc que ce n'est pas vrai qu'on applique une politique hein, de laïcité véritable. Mais évidemment, vous comprenez bien que pour beaucoup de laïcs intransigeants, quand même, hein, tout ce qui était école confessionnelle, on avait quand même interdit donc, les écoles confessionnelles en France, hein, on avait interdit aux congréganistes d'enseigner même dans les écoles privées.
Donc, beaucoup de laïcs intransigeants étaient sur une position que Pressensé, finalement, il abandonnait le combat laïque, hein, donc pour défendre une religion. Voilà, hein, donc vous voyez la contradiction. Mais c'est vrai que c'est un épisode important, hein, donc, qui montre d'ailleurs la problématique de la laïcité et de la liberté de conscience qui a retrouvé quand même aujourd'hui beaucoup, dont on parle beaucoup et à juste titre. Hein, donc on comprend bien, même si moi, quand j'étais étudiant, ces histoires de moines et tout ça me paraissaient quand même très anachroniques. Mais bon, aujourd'hui, entre le droit des religions et la laïcité, il y a toujours... des questions à se poser. Hein, donc voilà. Et on voit comment elles se posaient à l'époque aussi.
Bien, je vous propose de terminer ici cette conférence sur cette question épineuse, qu'on abordera du reste de manière oblique, pour reprendre un terme de Pressensé, en septembre, le 23 septembre, puisqu'on accueillera ici Stéphane Ancel, historien des religions, qui viendra nous parler justement de la question de la violence religieuse. Et qui abordera une question qui touche aux religions fondamentalement, même si dans son ouvrage « Tuer pour Dieu », Stéphane Ancel rappelle justement que cette violence, eh bien, la religion, les religions ne le portent pas intrinsèquement. Et il abordera donc cette question du rapport entre la violence de l'humain et telle qu'elle se développe dans les systèmes religieux. Voilà, ça sera la prochaine conférence, mais qui sera une conférence hors cycle en septembre, puisqu'on effectue ici une trêve estivale. Et on terminera ce cycle consacré donc au protestantisme à l'épreuve du pouvoir avec une question ou une conférence abordant la question du pouvoir intellectuel au travers d'une des grandes figures, une des figures majeures de la philosophie du XXe siècle français. Il s'agit de Roland Barthes et c'est François Doss qui viendra nous en parler. Je vous rappelle donc que vous pouvez vous munir des programmes qui sont ici sur la table juste à côté. Je vous rappelle aussi la biographie de Francis de Pressensé, à laquelle s'attelait Rémi Fabre, publiée ici aux presses universitaires de Rennes, que vous pouvez aussi découvrir sur cette table. Et si vous le voulez, vous avez encore quelques minutes pour prolonger la discussion avec Rémi Fabre. Nous vous remercions à tous de votre attention. On remercie une fois de plus la médiathèque de nous avoir accueillis. Merci et bon retour.